suite dans les idées, Sylvain Bourmont. En 1972, le chimiste et ingénieur anglais James Lovelock n'a sans doute pas la moindre idée que l'article qu'il publie dans la revue Atmospheric Environment deviendra un texte classique de l'histoire des sciences, un texte qui allait participer dans les années qui suivent à la définition d'un nouvel objet de recherche et à l'avènement de nouveaux domaines d'études. Ce qu'on appelle sans doute un peu abusivement l'hypothèse Gaïa a en effet joué un rôle considérable dans la manière dont les scientifiques et progressivement de plus en plus d'habitants de la planète aussi, la considèrent, cette planète. Comment est apparue cette nouvelle conception de la Terre? Le philosophe des sciences Sébastien Dutreuil a mené l'enquête. Il est cette semaine l'invité de la suite dans les idées. Et c'est un artiste qui nous rejoindra en seconde partie, un plasticien qui s'intéresse lui aussi beaucoup à ces nouvelles conceptions de la Terre, entre autres choses. Un plasticien également passionné d'histoire et de philosophie des sciences depuis toujours, je crois. Laurent Grasso, il nous rejoint donc en seconde partie d'émission. Bonjour Sébastien Dutreuil. Vous êtes philosophe, vous êtes chargé de recherche au CNRS, au centre Gilles-Gaston-Granger, l'université Aix-Marseille, et vous publiez aux éditions La Découverte, Gaïa, Terre vivante, histoire d'une nouvelle conception de la Terre. Je disais, je commençais par cette date, 1972, et cet article qui sans doute n'a pas eu énormément de lectrices et de lecteurs à l'époque, mais dont rétrospectivement on peut se dire qu'il marque un moment important dans l'histoire des sciences. Une histoire que vous écrivez dans ce gros livre important lui aussi. Je voulais qu'on parte de cette date de 1972 et peu à peu que vous nous expliquiez qui est l'auteur de ce texte. Sur lequel vous vous arrêtez longuement dans votre enquête. 1972, me disais-je aussi en réfléchissant à la date, c'est finalement assez peu de temps après une photo qui a marqué tout le monde à l'époque, la première photo de la Terre vue depuis la Lune, en fait, photo qu'on a retrouvée sur le Whole Earth Catalogue de Stuart Brand, qui vraiment est entré dans l'imagerie populaire, en fait. J'insiste là-dessus parce qu'on va le voir, la dimension populaire, si j'ose dire, la dimension des non-spécialistes joue un rôle dans cette histoire des sciences, Sébastien Dutreuil.
Alors effectivement, je vais peut-être commencer par revenir sur cette date. On aura peut-être l'occasion de revenir à plusieurs reprises sur les dates possibles de l'origine de Gaïa. En tout cas, 72, c'est la date à laquelle le terme de Gaïa est publié pour la première fois par Lovelock dans un texte qui s'appelle « Gaïa tel qu'on l'observe à travers l'atmosphère » et qui est un texte très court, en fait, dont l'objectif principal est de montrer l'existence d'une nouvelle entité dont on avait jusqu'à présent pas reconnu l'existence. Et cette entité, elle est constituée par les êtres vivants et l'influence que ceux-ci ont sur leur environnement. Et en fait, ça remonte à une expérience de pensée que Lovelock fait quand il s'intéresse à la manière dont on pourrait détecter de la vie sur d'autres planètes. Il va suggérer, en fait, de s'intéresser à comment on pourrait le faire sur Terre et constater l'important déséquilibre thermodynamique qu'il y a dans l'atmosphère, qui est en permanence créé et maintenu par l'activité des vivants et donc qui permet de révéler de manière indirecte les vivants à la présence des vivants sur Terre. Ouais.
Alors cette question de l'influence des êtres vivants sur une entité qu'on percevait ou principalement comme géologique, en fait, c'est ça la nouveauté. Peut-être aujourd'hui, c'est associé le plus spontanément à ce mot anthropocène qu'on a tous pris l'habitude de lire et peut-être d'utiliser depuis quelques années, Sébastien Dutreuil.
Alors effectivement, on est dans une époque qui est davantage marquée par le mot anthropocène que par le terme Gaïa. Les grandes heures de gloire populaire, publique et politique de Gaïa, c'était davantage la décennie des années 80. Mais il y a quelque chose d'intéressant dans le fait que le terme d'anthropocène même a été constitué à l'intérieur de programmes scientifiques qui eux-mêmes ont été nourris par la conception de la Terre proposée par Gaïa. Et en fait, l'Anthropocène et Gaïa ont la même conception de la Terre, donc il vient originellement de Gaïa, mais ils insistent simplement sur des points un peu différents. Gaïa va mettre en avant la longue histoire de la vie et de la Terre et l'influence des vivants en général et s'intéresser à l'habitabilité de la Terre pour l'ensemble des vivants, tandis que l'Anthropocène s'intéresse quasiment exclusivement à l'habitabilité humaine de la Terre et à la manière dont celle-ci est influencée, marquée par l'humanité.
L'actualité récente de l'Anthropocène, c'est que le fameux congrès des géologues a décidé qu'il n'y avait pas d'Anthropocène. Donc on est toujours dans une espèce de lutte entre une approche en termes géologiques et une approche qui insiste sur le caractère, enfin sur les êtres vivants qui façonnent cette entité.
Alors oui, c'est quelque chose qui est pas souvent analysé depuis l'extérieur. L'Anthropocène, ça vient pour l'essentiel du grand public, ça vient des sciences de la Terre en général. Et en fait, ce qu'on remarque pas dans ces cas-là, c'est le conflit entre la communauté au sein desquelles le concept même d'Anthropocène a émergé, qui a initialement pas grand-chose à voir avec la géologie comprise comme une histoire de la Terre, de ses strates, de ses fossiles, etc. Mais un ensemble de sciences qui s'intéressent aux changements globaux contemporains et à l'habitabilité future de la Terre. Et en fait, le terme entre dans le débat géologique simplement à la fin des années 2000, où certains géologues et stratigraphes ont l'impression qu'on leur fait peser un poids politique sur les épaules en leur demandant de trancher une controverse qui n'a pas émergé au sein de leur discipline.
C'est-à-dire que ce qui est fascinant dans cette période, c'est qu'on voit des domaines d'études qui sont relativement étanches les uns et les autres, mais qui malgré tout débattent dans un moment où il y a une demande sociale peut-être aussi de connaissance et de reconnaissance d'un certain nombre de problèmes.
Oui, et puis ça a été un des points de départ importants et un des cris de ralliement des partisans de l'hypothèse Gaïa a été une sorte d'appel à l'interdisciplinarité. Le constat a été fait, si vous voulez, que l'ensemble des disciplines des sciences de la Terre qui se sont renforcées, développées ou qui ont été créées au sortir de la Seconde Guerre mondiale dans un contexte de guerre froide, se sont développées pour des raisons bien particulières, souvent en silo. D'un côté, on a une physique de la Terre, au sein de laquelle émerge la climatologie physique qui va donner naissance à la climatologie contemporaine et aussi au sein de laquelle émerge la tectonique des plaques. De l'autre, des chimistes étudient la circulation de la matière à la surface de la Terre. Vous avez d'autres métaphores ou d'autres grandes conceptions de la Terre qui structurent les savoirs de l'époque, comme celle du vaisseau spatial Terre qui émerge dans les années 60, un peu en lien avec cette photo de la Terre depuis l'espace que vous mentionniez tout à l'heure. Et un des appels de Lovelock, Margulis et de leurs héritières et héritiers va être justement de dire il faut premièrement prendre en compte l'influence des vivants qui a été bien souvent négligée dans ces autres conceptions de la Terre, et deuxièmement faire interagir davantage ces savoirs entre eux et aussi avec des questions politiques.
Alors Lovelock, donc le nom de l'auteur de l'article par lequel on commençait, qui est à l'origine de cet usage, de ce retour d'un mot grec en fait, Gaïa, qui est-il? C'est un drôle de personnage dans l'histoire des sciences. Enfin, on en trouve régulièrement, mais disons pour la fin du XXe siècle, c'est quelqu'un qui est à la fois un scientifique et en même temps un entrepreneur.
Alors effectivement, en fait, on a plusieurs récits qui ont contribué à singulièrement obscurcir la trajectoire biographique et même le statut social de Lovelock. Le premier, c'est celui des biologistes de l'évolution qui fait de Gaïa une sorte d'idée pseudo-scientifique et marginale, si bien qu'on sait
ça,
pas...
Ça, on va y revenir parce que c'est une critique importante et intéressante, oui.
Oui, mais du coup, elle donne une image particulière de Lovelock, effectivement. Le deuxième, c'est celui, le récit que Lovelock lui-même fait de sa vie. Il se présente comme un scientifique indépendant, et il insiste sur le mot, et retiré du monde, qui s'installe à la campagne, dans le sud-ouest de l'Angleterre, peu après ses travaux de consultance pour la NASA que j'évoquais tout à l'heure. Et donc, il va dans un laboratoire qu'il a construit dans son garage, dans sa maison à la campagne, qui va élaborer la science gaïenne qu'il va proposer ensuite. En fait, si on regarde un peu plus en détail...
Faut dire quand même, parenthèse, que votre livre, Gaïa Terre Vivante, cette enquête, elle est principalement nourrie des archives de Lovelock que vous avez pu consulter, qui sont considérables, en fait.
Oui, effectivement. Donc, ces archives ont été disponibles au Science Museum de Londres vers la fin de ma thèse, et elles ont livré des informations intéressantes, en tout cas, au regard du récit que Lovelock faisait de lui-même. En fait, si on regarde son statut dans les années 60 et 70, il est beaucoup plus proche de celui que l'historien des sciences Stephen Chapin a appelé les scientifiques entrepreneurs, avec l'exemple emblématique des start-upers des biotechnologies de la Silicon Valley, qui ont à la fois un pied dans l'université et la production de savoir public, et l'autre dans la sphère privée. Et Lovelock répond très bien à cette catégorie. En fait, dans les années 60, il s'établit comme consultant. Il va travailler en fait pour trois grands types d'institutions. La première, c'est l'ensemble des institutions de production de savoir sur la Terre et l'environnement. Aux États-Unis et en Grande-Bretagne, il va travailler pour la NOAA, le plus grand laboratoire de climat aux États-Unis, les institutions qui structurent les recherches sur l'environnement en Angleterre, y compris le Met Office, donc l'équivalent de Météo France. Le deuxième grand ensemble, ce sont les entreprises chimiques et pétrolières, notamment Shell, mais aussi Imperial Chemical Industries, DuPont et d'autres entreprises informatiques comme Hewlett-Packard. Et enfin, le dernier ensemble est un peu spécifique. Il va travailler depuis le début des années 60 jusqu'à ses 101 ans pour les services secrets britanniques. Il se compare au personnage Q dans James Bond, donc espèce de nerd, inventeur de gadgets. Et je vais m'arrêter là-dessus. Un aspect en fait qui relie ces trois institutions, c'est un petit instrument qu'il invente à la fin des années 50. Il est surtout en fait un ingénieur et un inventeur d'instruments dans le domaine de la chimie. Et cet instrument permet une augmentation d'un facteur 1000 des seuils de détection des composés chimiques à l'époque. Et c'est ce même instrument et la même méthode qui va lui permettre de traquer des molécules chimiques qui circule dans des masses d'air pour les institutions productrices de savoir sur l'environnement, qui va lui permettre de détecter des fuites dans les pipelines pour Shell et qui va lui permettre de marquer, par exemple, des espions soviétiques et essayer de les suivre à la trace chimique.
Alors, en fait, c'est vraiment un intérêt pour la pollution qui va être à l'origine de cet article, de ces réflexions sur Gaïa. C'est vraiment la principale demande à laquelle il tente de satisfaire, notamment avec cet instrument.
Alors effectivement, en fait, le récit que lui-même livre de Gaïa ne brouille pas seulement les pistes sur son statut, mais aussi sur l'origine même de Gaïa, où il insiste énormément sur la recherche d'un critère abstrait pour détecter de la vie sur d'autres planètes alors qu'il travaillait pour la NASA, qui en fait occupe une part tout à fait minime de son temps, et surtout au début des années 60. Alors que si on regarde concrètement, matériellement, au quotidien, dans quel type de pratiques et de problèmes surtout il est impliqué dans les années 60 et 70, eh ben on va retrouver l'intégralité des problèmes qui sont classiquement liés à l'émergence d'une conscience de l'environnement global. Je vais prendre quelques exemples. Le DDT, cet insecticide qui est dénoncé par Rachel Carson dans Le Printemps silencieux, est un des grands produits de la branche d'agrochimie de Shell. Et dès le début des années 60, Lovelock est amené à s'intéresser et à travailler en collaboration avec des gens à Shell pour mesurer les concentrations de ce composé. On peut prendre la grande controverse du rôle des CFC dans la destruction de la couche d'ozone stratosphérique, où là, Lovelock est un personnage clé pour certains qui auraient dû même être récipiendaire du prix Nobel compte tenu de sa découverte. C'est grâce à son détecteur qui va réaliser les premières mesures de CFC dans l'atmosphère avant que ceci soit mis en cause par Molina et Roland comme destructeur de la couche d'ozone. On pourrait continuer à l'envi les exemples. Il écrit des premiers rapports sur le changement climatique pour Shell au milieu des années 60. Il s'intéresse au cycle du soufre dans le cadre du rôle des oxydes de soufre dans les pluies acides au début des années 70. On trouve dans ses archives des rapports sur le plomb dans l'essence, en pleine controverse environnementale et sanitaire, sur les dégâts causés par le plomb contenu dans l'essence qui vont mener à l'essence sans plomb, etc., etc. Donc en fait, son quotidien, c'est l'ensemble des pollutions de l'atmosphère. Si bien qu'une lecture possible, et en fait qui n'a pas souvent été faite, de son premier livre sur Gaïa en 79, c'est de le lire non pas comme une réflexion spéculative et abstraite sur la vie et la nature, mais comme une réflexion anthropologique sur la pollution. Et le concept de pollution, en fait, traverse un peu en sous-main l'ensemble des chapitres de ce livre.
Et tout ça financé par les industries, en fait, qui polluent.
Tout ça financé. Ce qui est intéressant, c'est que il n'est pas seulement financé par les industries qui polluent, mais il travaille aussi pour les institutions scientifiques qui alertent sur les savoirs et l'environnement. Et il va proposer une conception de la Terre qui sous-tend les grands lanceurs et lanceuses d'alerte des années 80 sur le climat et sur toute une série d'autres problèmes globaux. Donc il y a toute une série de tensions et de paradoxes.
Mais on sait comment cette dissonance cognitive, il la gère au fond. Est-ce que vous avez trouver trace de tout ça dans ce que vous avez pu consulter, parce qu'il y a énormément de courriers, vous dites, d'échanges avec des institutions diverses et variées, précisément.
Alors, je vais peut-être le poser, enfin, je vais reformuler
la question, allez-y.
La question d'une manière que j'ai pas forcément abordée dans le livre, qui est de voir sa position d'un point de vue temporel, en fait, de la voir évoluer. En fait, dans les années 60 et 70, il y a aucune tension, aucune ambivalence et aucune dissonance dans sa tête. Il est beaucoup plus proche des lobbies des marchands de doute, des lobbies industriels comme ceux qui ont été révélés par Naomi Oreskes et Eric Conway dans leur livre sur les marchands de doute, c'est-à-dire en gros des industries qui vont systématiquement semer le doute sur toute une série de controverses environnementales et sanitaires comme le changement climatique, le trou dans la couche d'ozone, les pluies acides, etc. Et notamment sur la question de l'ozone, Lovelock prépare, développe et répète à l'envi exactement les arguments des marchands de doute, à savoir qu'on a le temps pour légiférer sur les CFC. Et il a des mots extrêmement durs envers les Verts qui considèrent comme des gens irrationnels, très éloignés de la science et qui ont des peurs injustifiées du cancer. Et sa position va évoluer dans les années 80 où il va prendre un peu ses distances avec les industries chimiques et avoir des positions un peu plus favorables, on va dire, à une protection de l'environnement, mais toujours avec une forme d'ambivalence qui, elle, va perdurer jusqu'à la fin de sa vie, qui va porter sur le point suivant, qui est sur la localisation de la cause et des responsables des pollutions de l'environnement global. Quels que soient les sujets, quelles que soient les époques, s'il y a des responsables à des changements globaux comme le changement climatique ou le trou dans la couche d'ozone, ça n'est jamais à chercher du côté des industries chimiques, c'est toujours à chercher du côté des agriculteurs.
Vous avez fait jusqu'à présent le portrait d'un homme qui apparaît assez largement solitaire. Pour autant, son nom est souvent associé à celui de Lynn Margulis, qui elle était américaine et microbiologiste. Comment ont-ils fait équipe et dans quelle mesure c'était un tout petit noyau au fond de chercheurs isolés de leur père?
Alors, il y a plusieurs aspects. Je vais commencer par la collaboration de Lovelock et Margulis dans les années 70. En fait, Margulis contacte Lovelock sur les recommandations de son ex-mari Carl Sagan, ou à un moment où elle s'intéresse à l'évolution de l'oxygène dans l'atmosphère. Et on a beaucoup travaillé avec un collègue, Bruce Clark, sur la correspondance entre Lovelock et Margulis pour justement établir leur histoire. Et il y a une phrase que j'aime bien, que Margulis prononce dans une conférence des années 80, qui illustre en fait leur collaboration respective dans les années 70. Margulis va déclarer il y en a marre, en gros, de ces collègues et de ces recherches scientifiques dans lesquelles les biologistes ignore où va tout le méthane qui est produit par les bactéries produisant ce méthane, et d'un autre côté, des chimistes de l'atmosphère qui ignorent d'où vient ce méthane. Et rétrospectivement...
Donc pluridisciplinarité nécessaire.
Voilà, des échanges en gros entre les biologistes et les sciences de l'atmosphère et de l'environnement. Et ça illustre bien leur relation dans les années 70, où Margulis va à la fois apporter toute une série de contributions sur la manière dont les micro-organismes, dont elle est la spécialiste, influence et transforme la surface de la Terre, y compris dans la longue durée et la longue histoire de la Terre. Et Lovelock va lui apporter ses expertises en chimie contemporaine de l'atmosphère, on va dire. Et après, sur le deuxième aspect de votre question, qui porte sur en fait la toute petite communauté qui s'est intéressée...
Oui, qu'est-ce que ça pèse, au fond, ces chercheurs et chercheuses à l'époque?
Pardon?
Qu'est-ce que ça pèse, ces chercheurs?
Alors,
et chercheuses?
Alors, Lovelock et Margulis pèsent beaucoup. Lovelock est un scientifique extrêmement reconnu. S'il est consultant pour la NASA, c'est parce qu'il est la grande expertise en chimie analytique grâce à son instrument. Margulis va finir par être reconnu comme une théoricienne géniale grâce à sa théorie de l'endosymbiose à la fin des années 70. Donc, ce ne sont pas du tout de scientifiques marginaux, ce sont deux très grands scientifiques de leur domaine. Donc là n'est pas la question. La question est plutôt qui se saisit du label Gaïa et qui accepte de discuter de Gaïa comme une hypothèse, une théorie, en tout cas une proposition scientifique intéressante. Dans les années 80, Gaïa est abondamment discutée, circule notamment au sein des sciences de la Terre et de l'environnement. Mais si on regarde après la fin des années 80 et le début des années 90, en fait, si vous tapez le mot-clé Gaïa dans une base de données ou de recherche sur des articles scientifiques, vous allez tomber sur un nombre d'articles scientifiques qui est d'un côté très grand, si on a l'habitude du récit suivant lequel Gaïa est de la pseudoscience, mais qui est tout à fait ridicule si on compare ça à la révolution scientifique et philosophique qui est annoncée par Lovelock et Margulis eux-mêmes.
Vous parlez d'une petite littérature scientifique, en termes de taille.
Oui. Alors, petite, ça veut dire quoi? Ça veut dire environ 200 articles et quelques livres qui sont écrits par des scientifiques et des journalistes scientifiques. Et en fait, de manière un peu plus précise, la communauté qui accepte de mobiliser le label Gaïa dans la littérature scientifique pendant des décennies, c'est une dizaine ou une vingtaine de personnes. Dedans, il n'y a pas que des enthousiastes à propos de Gaïa. Il y a de très nombreux critiques également. Mais en tout cas, la communauté est extrêmement restreinte et pour l'essentiel basée en Angleterre.
Mais si vous en étiez resté là, en fait, vous seriez passé à côté, non pas de l'essentiel, mais d'une autre dimension extrêmement importante que vous qualifiez par ce mot d'appropriation. Au fond, cette idée Gaïa, même si on retrouve pas le label à proprement parler, elle infuse dans des domaines de recherche, elle va mettre à l'origine de certains domaines de recherche qui, pour autant, vont pas nécessairement se revendiquer en tant que tel de l'hypothèse Gaïa.
Alors effectivement, et ce sont les domaines que je mentionnais tout à l'heure, à savoir les sciences du système Terre, ce vaste ensemble disciplinaire au sein duquel a émergé des concepts qui impriment l'imaginaire public et politique aujourd'hui, comme celui d'anthropocène, de limite planétaire ou de point de bascule. Donc ces disciplines émergent à la fin des années 80 à partir d'un constat suivant lequel il y a des changements globaux et il faut sonner l'alerte d'une part, et à partir du deuxième constat suivant lequel on vient de reconnaître une nouvelle entité qu'ils appellent à l'époque le système Terre, mais qui est en gros Gaïa reprise dans d'autres termes. Et ces deux constats invitent à la fondation de nouvelles sciences. Et il y a deux éléments qui me semblent intéressants dans la manière dont on peut voir que Gaïa a circulé et nourri les savoirs et les politiques contemporains de la Terre, même lorsque le nom n'est pas prononcé. Le premier, c'est la manière dont Hans-Joachim Schellnhuber, qui est un climatologue allemand extrêmement important et influent, conseiller du Vatican, d'Angela Merkel, des Nations Unies, etc.
Et au sein du GIEC.
Et aussi du GIEC, va justifier l'objectif de maintenir le réchauffement en dessous de 2 degrés. Il le fait précisément sur la base d'une comparaison de la Terre à un organisme et de cette augmentation de 2 degrés à une fièvre d'un organisme qu'il emprunte à Lovelock sans le dire explicitement. Et le deuxième aspect, c'est cette couverture d'un rapport de la Royal Society qui porte sur la géo-ingénierie, donc un rapport extrêmement important qui va contribuer à la fin des années 2000 à légitimer la possibilité d'un débat ou d'une réflexion sur ces recherches de géo-ingénierie. Et la couverture de ce rapport, c'est un ensemble de pâquerettes blanches et noires, c'est une référence implicite au modèle Daisy World, qui est le modèle théorique central de Gaïa.
Alors, la référence, elle n'est pas explicite, dites-vous. Et si elle n'est pas explicite, c'est aussi sans doute probablement parce que Gaïa, l'hypothèse Gaïa, les travaux de Lovelock ont été attaqués très violemment par d'autres scientifiques, pas forcément par ceux auxquels on s'attendait, pas forcément par des géologues ou pas, mais par des biologistes en fait, qui vraiment s'en sont pris à cette idée, à ce concept avec véhémence.
Alors effectivement, et d'ailleurs c'est pendant de longues années, décennies, le récit principal qu'on a eu de Gaïa, à savoir l'idée que s'il y a eu une controverse importante avec des scientifiques, alors cette controverse a eu lieu avec des biologistes de l'évolution. Et ce récit-là remonte en fait à deux critiques assez courtes de quelques pages formulées en 80 et en 82 par Richard Dawkins et Ford Doolittle, deux biologistes, qui souligne des incompatibilités apparentes entre ce que proposait Gaïa, l'idée d'une grande régulation de l'environnement global, et ce que permettrait la sélection naturelle. Ce qui est intéressant, c'est que Lovelock, Margulis et leurs héritières ont essayé de répondre à ces critiques, ont nourri et entretenu une littérature scientifique relativement abondante, donc la petite littérature qu'on mentionnait tout à l'heure. Et en fait, si on regarde dans le détail, les biologistes de l'évolution n'ont absolument pas participé à ce débat et se sont très largement désintéressés de l'hypothèse Gaïa après les critiques formulées au début des années 80. Si bien qu'en fait, à mon avis, il faut arrêter de s'intéresser aux critiques formulées par les biologistes de l'évolution, arrêter de considérer que le débat central en science, c'est celui-là, parce qu'en réalité, il n'y a pas eu de débat, il y a eu juste quelques critiques marginales et après, il n'y a pas eu de controverses entretenues, nourries, alimentées par des intérêts.
Hypothèse Gaïa, dites-vous, c'est pas vraiment une hypothèse au sens où on l'entend généralement en science.
Alors effectivement, le nom est assez trompeur et marque, à mon avis, l'influence assez néfaste que la philosophie popérienne des sciences a pu avoir, c'est-à-dire cette conception suivant laquelle l'activité scientifique se résume à la proposition d'hypothèses les plus générales possibles qu'on va tester avec les faits. Et en fait, si on regarde.
Et l'idée qu'il faut que ce soit réfutable.
Et l'idée que, voilà, l'idée que, faut, que ces propositions doivent être réfutables. Si on regarde dans le détail, les pratiques de Lovelock et Margulis dans les années 70, on se rend compte qu'ils n'ont pas du tout abordé Gaïa comme une hypothèse qu'il s'agirait de réfuter avec les faits, parce qu'eux-mêmes présentent toute une série de contre-exemples où on voit que on a des épisodes d'histoire de la Terre pendant lesquels l'environnement n'est pas resté stable ou régulé, ou bien on a eu des grandes crises d'extinction biologique. Ces faits-là sont connus par Lovelock et Margulis, et pourtant ils n'abandonnent pas l'hypothèse Gaïa, ou ils n'abandonnent pas Gaïa. C'est parce que l'effet que Gaïa a eu est plus proche de celui que la constitution du concept d'organisme a pu avoir à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, c'est-à-dire diriger l'attention vers une nouvelle entité, un nouveau partage ontologique à l'époque entre le vivant et le non-vivant, menant à la constitution d'une nouvelle discipline, donc à l'époque la biologie. Et bien Gaïa a eu le même genre d'effet. Lovelock et Margulis ont présenté une nouvelle entité, Gaïa, l'entité constituée de l'ensemble des vivants et l'environnement avec lequel ils interagissent. Et cette entité devait donner naissance à un nouveau programme de recherche, à une nouvelle question qu'on ne se posait pas auparavant dans les sciences de la Terre et de l'environnement.
Venons-en peut-être à un volet plus politique. Vous disiez tout à l'heure, Sébastien Dutreuil, que, au fond, Lovelock était critique des écologistes, des Verts, dans un premier temps en tous les cas. Qu'en est-il de la relation inverse, c'est-à-dire comment les écologistes, les gens soucieux de la protection de l'environnement, soucieux des questions de pollution, par exemple, un problème qui se posait dans les années 70 ou qui apparaissait, ont reçu ce concept, cette façon de concevoir la Terre. Est-ce que c'est pas des appropriations parfois un petit peu sauvages de ce concept qui ont conduit aux accusations de New Age lancées à l'endroit de Lovelock?
Alors, les accusations de New Age, elles sont surtout venues de la part de scientifiques, notamment des biologistes de l'évolution, qui étaient assez peu intéressés au débat. Ces accusations de New Age, en fait, elles masquent quelque chose, une très vaste appropriation culturelle de Gaïa qui a eu lieu dans des sphères, des traditions de pensée, etc., qui ont pour beaucoup rien à voir avec le New Age. En fait, on pourrait dire que dans les années 80, l'ensemble des traditions de pensée qui s'intéressent de près ou de loin à l'environnement ou la nature, toutes les variétés d'écoféminisme, l'écopsychologie, l'éthique environnementale, l'écologie politique aux États-Unis avec la contre-culture environnementale du Waller's Catalogue que vous mentionniez, l'écologie politique britannique et la bande de The Ecologist et du Schumacher College. Bref, toute une série de traditions vont se saisir de Gaïa, et d'ailleurs Lovelock et Margulis vont activement participer à cette circulation de Gaïa au sein d'une sphère écolo élargie. En fait.
Donc ils ne sont pas réticents.
Ils ne sont pas du tout réticents. Il y a cette tension intéressante qui est une forme d'aveuglement de la part de l'ensemble de ces traditions de pensée, opposition politique concrète de Lovelock au profit d'une sorte de ressaisissement de Gaïa comme nouvelle philosophie de la nature, nouvelle manière de voir la Terre comme une sorte d'être vivant autorégulé, qui va avoir pour conséquence, donc on va passer sous silence les positions politiques de Lovelock. Et les seuls qui sont sceptiques, réticents, ou qui ont des difficultés avec les positions politiques de Lovelock, ce sont des scientifiques. Et ce sont des scientifiques qui justement ont sonné l'alerte sur toute une série de controverses. Un exemple qui me semble particulièrement frappant, et qu'on a quasiment jamais mentionné dans la littérature sur Gaïa, c'est une recension, la même année que celle des biologistes de l'évolution, par un spécialiste des pluies acides. Et ce spécialiste des pluies acides nous dit, lisez le livre de Lovelock, les 6 premiers chapitres, c'est quelque chose de merveilleux sur le plan scientifique. En revanche, les 3 derniers chapitres sont particulièrement problématiques et Lovelock est quelqu'un de dangereux pour les politiques environnementales. Donc on a quelque chose de complètement inversé par rapport au récit standard qui fait de Gaïa quelque chose de pseudo-scientifique proposé par une sorte de gourou de l'écologie politique.
Qu'en est-il de la réception, s'il y en a une, spécifiquement française ?
Alors, malheureusement, c'est une histoire qui est essentiellement située aux États-Unis et en Grande-Bretagne.
C'est-à-dire qu'il a fallu attendre assez longtemps pour qu'on prenne connaissance de l'existence de l'hypothèse Gaïa en français, y compris dans les milieux écologistes.
En fait, la manière dont ça passe, donc le livre est traduit, je crois, en français à la fin des années 80, début des années 90, donc il y a une bonne dizaine d'années d'écart. Et les endroits où ça passe, c'est à la fois dans une traduction de Coevolution Quarterly, qui est cette revue qui hérite du Waller's Catalogue, et dans la revue L'Écologiste, qui est éditée par Edward Goldsmith, donc qui est la version française de The Ecologist, donc des textes sur Gaïa passent et circulent dans ces revues, mais pas du tout avec la même intensité que ce qui est le cas en Grande-Bretagne et aux États-Unis.
On va voir ce qu'il en est dans le monde de l'art. Est-ce que les artistes anglais, américains notamment, avaient connaissance de ces débats, de ces concepts? On va retrouver Laurent Grasso en seconde partie d'émission, mais c'est après un extrait du nouvel album de A Certain Ratio, We All Need.
Suite dans les idées, Sylvain Bourmont.
De philosophie et d'histoire des sciences aujourd'hui et la suite dans les idées avec Sébastien Dutreuil à propos de son livre Gaïa, Terre vivante, histoire d'une nouvelle conception de la Terre. Alors philosophie, histoire des sciences, j'ai immédiatement pensé à vous, Laurent Grasso, bonjour.
Bonjour.
Depuis que je connais votre travail, j'ai vu à quel point il est nourri par la science et par ses représentations. Et j'imagine que ces nouvelles conceptions de la Terre ne sont pas pour rien non plus dans vos travaux les plus récents, en fait, qu'on a pu voir en particulier au musée d'Orsay, en écho à l'exposition sur la nature, et puis également au Bernardin où vous avez travaillé avec Grégory Quenet, et en écho aussi au travail de Bruno Latour. J'en profite pour dire que le livre de Sébastien Dutreuil est dédié à Bruno Latour.
Oui, absolument. En fait, c'est vrai que tout ce que j'ai entendu et de ce que j'ai pu parcourir le livre de Sébastien Dutreuil, il y a énormément de portes qui s'ouvrent et de souvenirs et de notions qui m'ont intéressé grandement et parfois certaines assez confidentielles. Par exemple, ça n'a pas été vraiment développé dans la conversation, mais le géo-engineering, qui est quelque chose qui, pour moi, dans mon travail, m'a vraiment fasciné, parce que ça déploie des possibilités assez effrayantes, et c'est une forme de solution ultime, mais qui est très très dangereuse potentiellement. J'avais fait un entretien avec Clive Hamilton il y a quelques années, qui avait écrit sur ce sujet. Oui, la question peut-être pour un artiste, avant de parler en détail des choses, c'est comment réagir à toutes ces théories et qu'est-ce que peut faire l'artiste en fait, parce que évidemment, pour un artiste aujourd'hui, il est indispensable de s'informer, de dialoguer. Vous l'avez évoqué, par exemple, dans le cadre de la collaboration que j'ai pu avoir depuis à peu près 10 ans avec Grégory Quenet, où on a développé plusieurs projets ensemble. Mais c'est très compliqué de se positionner et puis aussi d'expliquer comment un artiste peut se situer face à la philosophie, l'histoire des sciences, sans être dans la répétition en fait de choses qui sont
ou dans l'illustration ou dans l'illustration, c'est pas du tout l'idée.
Exactement, parce que on le voit, c'est extrêmement intéressant tout ce qui vient d'être dit, et donc qu'est-ce que peut ajouter l'artiste? Et je crois que notre rôle, c'est de construire des machines, en fait, qui nous permettent de regarder le monde, de se nourrir de ça, mais presque dans une forme d'inconscient scientifique, en fait, et avec une grande porosité à toutes ces notions. Mais en ouvrant des portes nouvelles et avec des instruments différents, en jouant plutôt avec les sensations, la mémoire, avec une expérience physique, plastique, tout ça a l'air évident, mais je le dis aussi parce que on est entouré aussi également aujourd'hui d'énormément de propositions artistiques, avec des engagements sur des sujets, par exemple écologiques, mais qui pour moi souvent sont assez décevantes parce que elles s'inscrivent dans une illustration, comme vous le disiez.
Sébastien Dutreuil.
Oui, c'est effectivement une position à laquelle je suis sensible, c'est-à-dire que l'art soit pas du tout là pour vulgariser ou
pour ajouter les images à un texte,
mais pour explorer d'autres choses, peut-être une manière de le voir. C'est par exemple la manière dont l'art permet d'envisager des futurs, donc une mode d'appréhension de l'avenir qui a rien à voir avec le mode scientifique d'appréhension qui repose soit sur des prédictions, soit sur des scénarios. Et il y a une phrase de présentation, je crois que c'était de votre exposition au Quai d'Orsay, qui s'intéresse au post-anthropocène à un moment où justement on ne peut plus réparer la Terre. Je crois que c'était la phrase de présentation qui m'avait frappé. C'est typiquement le genre de possibles, de futurs qui sont extrêmement intéressants à explorer et qui rentrent pas du tout dans le cadre des discussions scientifiques et politiques contemporaines au sein desquelles la possibilité de réparer par la géo-ingénierie reste encore une des options centrales. Ouais.
On revient à cette géo-ingénierie, Laurent Grasso.
Oui. Par rapport justement à la notion de post-anthropocène, ce qui est aussi la possibilité et la grande liberté des artistes qui n'agissent pas dans ce cadre scientifique, c'est justement d'ouvrir de nouvelles portes et aussi de faire des pas de côté. Avant l'exposition et mon projet Artificialis au musée d'Orsay, il y avait eu un autre projet où justement vous parlez de terrestrialisation par rapport à Gaïa. Donc on revient voilà sur cet organisme que peut être Gaïa. Et j'avais fait un projet qui s'appelait Solar Wind, où justement ce qui m'intéressait c'était l'inverse, l'extraterrestrialisation des influences que nous pouvons subir, et notamment celle des vents solaires, des tempêtes magnétiques, de tout ce qui peut venir de l'espace, et de manière plus générale de la météorologie de l'espace. Et j'écris un projet qu'on peut voir sur le périphérique vers la porte de Bercy, où sont traduits en couleurs, en animation, des données que je récolte quotidiennement auprès de différents laboratoires et groupes de recherche sur l'activité du Soleil et d'autres événements de climatiques, spatiaux. Et derrière ce projet, il y avait la volonté justement aussi d'aller un petit peu dans une autre direction que la direction dominante qui effectivement traitait beaucoup d'anthropocène, sans pour autant s'en désintéresser évidemment.
C'est vrai que ça permet de décentrer les choses. Moi qui ai eu la chance d'avoir une vue directe sur cette météorologie du soleil grâce à vous, Laurent Grasso, pendant des années, en sachant en permanence le temps qu'il fait sur le soleil, en quelque sorte, on regarde différemment la météo qu'on entend à la radio dans le même instant.
Il y a plusieurs années également, un autre projet que j'avais envie de mentionner, En vous écoutant, c'était le projet ARP que j'avais fait au Palais de Tokyo. J'avais reproduit une base qui se trouve en Alaska, qui est assez mystérieuse, puisque c'est un champ d'antenne qui envoie de l'énergie dans l'ionosphère. Et en fait, c'est surtout un lieu de projection, et ça c'est une notion que je travaille beaucoup, c'est celle justement de nos projections humaines sur la complexité du monde, et sur notamment par rapport à la science, qui est aujourd'hui un champ qui est assez complexe. Il y a énormément de disciplines, c'est très compliqué de se documenter et d'accéder à ce que sont les recherches d'aujourd'hui, et je pense que ça provoque aussi parfois des projections, et ça génère un imaginaire très très fort. Et cette base était vraiment un motif et un générateur de fiction, et générait toutes sortes de théories. Elle existe vraiment, mais en parler, c'est comme parler d'une fiction. Et mon travail se situe justement dans cette espèce de frontière assez ténue, en fait, entre des choses qui sont scientifiques, mais un petit peu borderline, ou parfois des théories qui ont l'air fumeuses, mais qui vont devenir scientifiques un petit peu plus tard, en fait. Et je trouve aussi que le concept de Gaïa est très intéressant, parce qu'en réalité, c'est une vision du monde qui est proposée. Et j'aime beaucoup cette enquête que vous avez faite. Et en même temps, l'idée peut se suffire à elle-même, c'est-à-dire que c'est une fenêtre et une manière d'aborder les choses. Et il n'y a pas forcément la nécessité finalement de valider ou d'invalider cette hypothèse. C'est une porte qui s'ouvre, en fait, et je trouve ça très intéressant. Et c'est à peu près le genre de contexte que je recherche pour commencer un nouveau projet, ce genre d'idée qui arrive et qui nous permet de voir les choses autrement.
Sébastien Dutreuil, Laurent Grasso parlait de la relation qu'il entretient comme artiste à la science, au savoir scientifique qui est considérable, et comme non scientifique, c'est difficile. J'ai envie de vous poser la question comme philosophe, c'est-à-dire que c'est pareil, vous n'êtes pas l'un de ces scientifiques, vous faites de la philosophie des sciences. Quel type de rapport vous avez, pas le même que celui des artistes nécessairement, mais c'est aussi un rapport de distance à l'égard de ce savoir scientifique.
Finalement, c'est aussi un peu le même. J'ai initialement une formation scientifique et je m'en suis éloigné pour deux raisons. À la fois, d'un côté, par souci, on va dire, d'approfondissement. C'est-à-dire, si vous poussez l'enquête scientifique à son terme, à la fin, des questions historiques et philosophiques émergent nécessairement. Et aussi d'élargissement à des questions ou à des registres de discours qui sont pas, comme le disait à l'instant Laurent Grasso, qui reposent pas sur la question de la vérité de manière centrale. Et par exemple, exemple, dans une des expositions de son travail, il va s'intéresser à un atelier des zones critiques qui est travaillé par les géochimistes contemporains qui se trouvent à Saint-Odile. Et le fait même de pas être au sein d'institutions scientifiques lui permet d'aller s'intéresser également à un mur païen qui entoure l'enceinte de ce lieu et à aussi à des expériences que des géobiologistes vont pratiquer sur ce lieu en ressentant l'énergie terrestre des lieux. C'est exactement ce genre d'intérêt, de croisement qui m'avait aussi initialement intéressé en faisant de l'histoire et de la philosophie des sciences, et même plus spécifiquement en m'intéressant à Gaïa.
Laurent Grasso.
C'est vrai que ça a été un motif. Moi, je dis souvent que j'utilise la science ou d'autres champs comme des motifs, comme pourrait le faire un peintre qui va s'emparer, non pas juste de la partie esthétique, scientifique, mais aussi conceptuelle. Et la zone critique, c'était... lors d'une rencontre avec Jérôme Gaillardet, que j'ai appris que au Mont Saint-Odile, juste à côté, avait été installée une zone critique. Donc la zone critique, c'est cette espèce de pellicule dans laquelle nous vivons, et c'est un réseau international où il y a une forme de pluridisciplinarité des champs scientifiques pour étudier cette pellicule dans laquelle nous vivons. Et du coup, je suis allé visiter cet endroit et ça m'a rappelé l'existence juste à côté de quelque chose qui était absolument pas scientifique. C'est cet endroit, le Mont Saint-Odile, où, et là c'est plus pour des questions anthropologiques et de l'intérêt pour les croyances humaines, je ne sais pas pourquoi, mais beaucoup de gens viennent mesurer l'énergie de certaines pierres avec des instruments qui sont fabriqués. Et là, on est dans quelque chose qui relève plus de la croyance, de la fiction, mais que je trouve également très intéressant, et encore plus, effectivement, lorsque ça peut se croiser avec la science. C'est à peu près cette idée que quelles sont les histoires que les humains se racontent pour continuer à s'adapter au monde. Et donc, je suis allé explorer un petit peu ces pratiques et je les ai croisées en reproduisant également des instruments de captation qui sont utilisés là dans le champ scientifique. Et donc, le film qui en est sorti, qui s'appelle Anima, c'est... l'idée d'un système dans lequel sont un peu mis au même niveau l'humain, le non-humain, le minéral, le végétal. Il y a des effets spéciaux également. Il y a un renard qui traverse cet environnement. Mais c'est aussi la volonté d'utiliser des outils scientifiques comme le scanner LIDAR. Qui est un...
Merci Laurent Grasso, mais on arrive au terme de l'émission. Il faudra qu'on poursuive une autre fois, mais je suis sûr que les occasions se présenteront pour continuer d'explorer votre travail. Merci Laurent Grasso, merci Sébastien Dutreuil, Gaïa, Terre Vivante, Paris aux éditions La Découverte. C'était La Suite dans les idées, Sylvain Bourmeau avec Séam Boutata, à la technique aujourd'hui Sébastien Royer, à la réalisation Anne-Laure Chanel.